Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
À 19h15, la pédopsychiatre Caroline Eliachef, ne touchez pas aux enfants, dit-elle. À 19h30, la violence des jeunes dans Panorama, juste après votre journal. Bonsoir Victor Pourchet.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Il est 19h. Et à la une, Victor, deux attaques en moins de 24 heures à Jérusalem.
Qui font craindre une nouvelle flambée de violence. Va-t-on vers une nouvelle intifada ? Nous poserons la question à notre invité Simon Seroussi, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Un congrès et tout est pardonné. Celui du Parti Socialiste à Marseille a entériné le choix d'Olivier Faure à la tête du PS. Décision validée par les contestataires du parti. Dernier week-end pour convaincre sur les retraites pour le gouvernement. Sa chef, Elisabeth Borne, sur le terrain et derrière elle, toute une majorité en ordre de bataille avant la manifestation de mardi. Et puis en sport, la belle victoire des handballeurs français qualifiés pour la finale du Mondial et du foot, course poursuite en haut du classement de Ligue 1.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, un ciel plus dégagé avec a priori davantage d'éclaircies, des minimales en baisse et des gelées généralisées, mais des maximales en hausse.
Météo complète en fin de journal. C'est l'actualité qui a choqué Israël et le monde entier. Ces deux attaques terroristes dans les rues de Jérusalem-Est.
La première, hier soir, a fait 7 morts à proximité d'une synagogue. Un homme de 21 ans y a ouvert le feu avant d'être abattu. La seconde a été perpétrée par un jeune Palestinien de 13 ans qui a blessé 2 personnes. En ligne avec nous, pour en parler, le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, Simon Seroussi. Bonsoir, monsieur Seroussi.
Bonsoir.
On le disait, hein, deux attaques en moins de 24 heures, c'est déjà une flambée de violence exceptionnelle. Mais est-ce que vous craignez qu'on entre dans une autre phase, pour dire les mots, est-ce que vous craignez une nouvelle intifada ?
En tout cas, je ne le souhaite pas. J'espère sincèrement que les tensions vont se calmer. Vous savez, il faut rappeler qu'il y a un nombre très important d'attaques depuis maintenant presque 2 ans. La plupart des attaques sont arrêtées. Au tout début et donc heureusement les assaillants, les terroristes n'arrivent pas à commettre d'attentats, mais les forces de sécurité sont sous tension en permanence et ce week-end les assaillants ont réussi à passer à travers les mailles du filet, mais c'est une situation de tension constante qui malgré tout reste sous un certain contrôle des forces de sécurité israéliennes. Nous espérons que la situation va se stabiliser, que nous ne verrons pas d'escalade dans les jours qui viennent.
Et l'autorité palestinienne, elle, vous désignez Israël comme entièrement responsable de la dangereuse escalade. Ce sont ses mots. Elle évoque notamment ce raid de l'armée israélienne à Jénine qui a fait 9 morts dans un camp de réfugiés. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Vous savez, je pense que c'est très important, en effet, de lier les deux événements. Car ce raid, cette opération de Tsahal dans le camp de réfugiés de Jenin, avait justement pour but d'arrêter des terroristes qui étaient ce qu'on appelle une ticking bomb. C'est-à-dire qui, dans les minutes, dans les heures qui venaient, étaient en train de partir pour aller commettre un attentat terroriste en Israël. Et donc c'est grâce à ce genre d'opération que nous pouvons réduire le nombre d'attaques terroristes. Et ce sont les 9 morts, je le rappelle, c'est des combattants du djihad islamique, une organisation terroriste islamiste, qui sont morts les armes à la main, alors qu'en Israël, on parle de 8 civils qui se sont fait lâchement assassiner dans une synagogue, un enfant de, notamment un enfant de 14 ans dont on vient de publier le nom il y a quelques minutes.
C'est donc... Pardon, je coupe. Il y a une chose qui interpelle dans le profil des assaillants que vous étiez en train de détailler. Ces deux assaillants des deux attaques, donc hier soir et ce matin, leur âge, 21 ans et 13 ans. C'est très jeune.
C'est très jeune, en effet, c'est très jeune et c'est bien sûr très inquiétant. C'est aussi, si je ne me trompe pas, des gens qui ne faisaient pas partie d'organisations connues. Et bien sûr, c'est quelque chose de très problématique. C'est aussi lié à la faiblesse de l'autorité palestinienne ces dernières années, au manque de démocratie au sein de l'autorité palestinienne, qui fait que il y a une difficulté pour ces jeunes d'avoir un horizon économique. Et ajouter à ça les tensions du conflit, l'idéologie islamiste qui malheureusement est très présente dans les territoires palestiniens, et c'est un espèce de cocktail explosif qui donne le résultat que l'on voit aujourd'hui.
Merci beaucoup, Monsieur Seroussi. Simon Seroussi, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Merci beaucoup.
Il est 19h06 sur Europe 1, toujours à l'international, de longues secondes de passage à tabac. C'est ce qu'on a découvert, c'est ce qu'ont découvert le monde entier, les Américains en premier lieu, sur les images de l'arrestation de Tyree Nichols.
Mort après un contrôle de police, le président Joe Biden s'est dit scandalisé et profondément meurtri alors que des manifestations ont eu lieu aujourd'hui dans de grandes villes américaines comme New York ou Memphis, par exemple. 14 morts et 24 blessés, c'est le bilan, selon Moscou, de frappes ukrainiennes sur un hôpital de la région de Louhansk, dans l'est du pays. Un grave crime de guerre, affirme le Kremlin, qui précise que ces frappes ont été perpétrées à l'aide de HIMARS, des lance-roquettes fournis par les États-Unis.
En France, on s'est mis d'accord au Parti Socialiste, invente des délégués du PS à son congrès de Marseille, entérine finalement le choix d'Olivier Faure comme premier secrétaire.
Avec l'approbation de ses opposants, Nicolas Mayer-Rossignol et Hélène Geoffroy, fin d'une saga et d'un psychologue. Au drame de ces dernières semaines, les élus PS ont enfin trouvé un terrain d'entente, Alexis de la Fontaine.
Oui, ici à Marseille, les 180 délégués du Parti Socialiste ont validé cet accord à l'unanimité. Un accord presque inespéré au vu du conflit qui a opposé les deux candidats. Alors à la sortie, c'est le soulagement pour Olivier Faure.
On est dans un moment qui est un moment de rassemblement. Et moi je souhaite que nous puissions incarner ensemble une nouvelle façon de travailler. Et surtout une nouvelle façon de nous adresser aux Françaises et aux Français. Parce qu'on a passé de longues semaines à se parler à nous-mêmes. Il est maintenant largement temps de parler à celles et ceux qui n'ont que nous, au fond, pour les défendre.
Dans cet accord, un poste spécial est créé pour Nicolas Mayer-Rossignol, celui de premier secrétaire délégué. Un lot de consolation confie encore à Maire, un proche du nouveau numéro 2 du parti. Car malgré l'accord, les divisions restent bien présentes. Pour preuve, aucune photo de famille n'a lieu après le vote et les conférences de presse sont séparées. C'est dire le travail colossal qu'il reste à Olivier Faure pour rassembler le Parti Socialiste.
Alexis de la Fontaine en direct de Marseille pour Europe 1. Et en politique encore, cette prise de parole d'Emmanuel Macron sur le climat. Si on ne change pas les choses, on n'y arrivera pas. Ces mots dans une vidéo publiée ce matin sur son compte Twitter. Le chef de l'État a expliqué l'objectif de la France à l'horizon 2030, réduire de moitié nos émissions de CO2.
Une courte pause sur Europe 1. Après, on parlera des retraites. Elisabeth Borne sur le terrain, chez elle dans le Calvados, pour défendre la réforme, une fois de plus, de la pédagogie pour la majorité ce week-end, avant la grande manif de mardi. A tout de suite.
Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneuve. 19h09, la suite du journal de Victor Pourchet sur Europe 1. Convaincre, convaincre et convaincre. La mission est claire ce week-end pour la majorité.
Qui ne va pas ménager ses efforts pendant deux jours pour défendre la réforme des retraites. Il faut dire que l'on est à un tournant. Examen des amendements en commission à l'Assemblée nationale et surtout cette grande manifestation syndicale mardi. Alors Arthur Delaborde, la première ministre Elisabeth Borne remonte les manches. Elle était en déplacement dans le Calvados aujourd'hui.
Oui, dans un contexte explosif, Elisabeth Borne assume un nouvel axe de communication plus offensif et n'hésite pas à recadrer l'opposition, mais aussi la majorité, sur ce qu'elle qualifie de fausses informations colportées sur la réforme des retraites, ici au micro de BFM TV.
J'entends beaucoup de fausses informations. Par exemple, j'entends dire que les apprentis avant 2014 ne peuvent pas bénéficier des trimestres qu'ils ont acquis dans le cadre de leur apprentissage. J'entends dire que la réforme pénaliserait les femmes qui ont des carrières hachées. C'est exactement le contraire.
En citant ce deuxième exemple de désinformation, la chef du gouvernement adresse un tacle à peine voilé au ministre des Relations avec le Parlement. Franck Riester avait déclaré il y a quelques jours que les femmes étaient à ses yeux un peu pénalisées par le report de l'âge de départ à la retraite. Ce recadrage public d'Elisabeth Borne sonne aussi comme un message adressé à l'ensemble du camp présidentiel pour l'appeler à faire bloc et éviter toute polémique en ces heures décisives pour la réforme.
Les explications d'Arthur Delaborde pour Europe 1 et dans un entretien au Parisien, Gérald Darmanin, offensif également, le ministre de l'Intérieur fustige, je cite, « le gauchisme paresse et bobo, la NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays », ajoute-t-il. C'est la fin d'une mesure qui devenait dans notre quotidien une habitude. L'isolement des personnes testées positives au Covid-19 ne sera plus demandé de façon systématique à partir de mercredi. Annonce de la Direction Générale de la Santé, il restera fortement recommandé de rester chez soi.
Et on va passer au sport. Et J-1 pour les Bleus.
Dans un peu plus de 24 heures, l'équipe de France de handball dispute la finale des championnats du monde. Ce sera contre le Danemark, un match qu'Europe 1 vous fera vivre en intégralité dans Europe 1 Sport. Martin Lange, vous êtes à Stockholm, bonsoir. Martin ?
Oui, vous m'entendez ?
Je vous entends. Il faut lui parler suédois. J'ai pas le mot en suédois. Vous l'avez, vous, Pierre ?
Ben non.
Bon, on dira bonsoir, alors. Vous suivez les Bleus pour Europe 1, Martin. Des Bleus déjà tournés vers le match de demain.
Oui, tout à fait, hein, Victor. Malgré l'exploit réalisé hier, on le rappelle, hein, l'équipe de France a sorti la Suède, championne d'Europe en titre, chez elle, devant son public. Eh bien, l'heure n'est pas encore à la fête, hein, pas d'effusion de joie. L'objectif, le vrai, c'est demain. Écoutez le capitaine des Bleus, Luka Karabatic.
On a eu un peu de temps hier entre nous pour savourer la victoire, mais... Je pense qu'on s'est tous assez rapidement projetés. On a l'habitude depuis le début de la compétition. On a soif de victoire encore. On a envie d'aller chercher la plus belle médaille. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a tous déjà basculé sur le Danemark et sur la préparation de ce match.
Ça fait 6 ans que les Bleus n'ont pas remporté les championnats du monde. Ça vous semble peu, mais à l'échelle du handball français, c'est une éternité. Des Bleus qui sont actuellement à l'entraînement à la Télé 2 Arena. Dernier réglage avant le choc de demain face aux Danois. On va notamment tester le pied de Nicolas Karabatic et la main de Thibaut Briez. Deux joueurs qui n'ont pas pris part à la demi-finale hier.
Martin Lange, envoyé spécial d'Europe 1 à Stockholm pour suivre les Bleus.
Du foot aussi ce samedi.
Et de la Ligue 1, Lorient a battu Rennes hier en ouverture de la 20e journée. Elle se poursuit aujourd'hui. 3 affrontés le deuxième. Lens, vous y étiez pour Europe 1, Damien Ardoye, et ça a été serré jusqu'au bout.
Et c'est terminé au stade de l'Aube avec un score de parité, un but partout, un match au scénario assez fou, une très large domination lensoise des Troyens qui ouvrent pourtant le score sur contre-attaque par Laroussi à la 49e minute de jeu. Des Troyens qui résistent, qui se créent même de très belles occasions pour mener 2-0 contre le cours du jeu. Mais finalement, Lens est revenu dans la partie dans les dernières minutes avec un ultime cafouillage. C'est Thomasson qui pousse le ballon au fond des filets et qui égalise et qui permet surtout à Lens d'éviter la défaite sur la pelouse du mal classé Troyen. Les 4000 supporters lensois qui ont fait le déplacement repartent avec forcément un peu de déception, mais aussi et surtout du soulagement avec ce scénario. Troyes peut même avoir des regrets. Un but partout, c'est donc le score final entre Troyes et Lens. Et
Damien Ardoye pour Europe 1 et le RC Lens, chassé par l'Olympique de Marseille au classement. Les Olympiens sont juste derrière avant leur match contre Monaco, c'est à 21h. Jean-François Pérez, c'est vous qui allez nous le faire vivre pour Europe 1. L'OM a une chance de recoller là.
Ah, exactement, hein. L'OM en cas de victoire ce soir prendrait la deuxième place au Lensois, la différence de but. Alors cela ne va faire qu'ajouter un peu plus de piment, hein, s'il en était besoin, une soirée qui est toujours particulière. OM-Monaco, c'est un classique du foot français, c'est la 120e confrontation ce soir entre les deux équipes du Sud. À l'aller, l'OM l'avait emporté 3-2 à la dernière seconde. C'était sans doute un tournant dans la saison de l'OM, qui était encore sous le coup de l'élimination en Ligue des Champions à l'époque. Et depuis, c'est une équipe qui est transfigurée, 8 victoires d'affilée pour les joueurs de l'entraîneur croate Igor Tudor. Ce soir, ils seront 63 000 au stade Vélodrome, malgré le froid. 14e match consécutif à guichet fermé. Vous vous rendez compte, c'est du jamais vu, hein, dans l'histoire du club. Et la présence attendue dans les tribunes de la nouvelle recrue arrivée cet après-midi à Marseille. Le milieu de terrain Hasdin Unai, en provenance d'Angers, pour une dizaine de millions d'euros, dans la foulée d'une Coupe du Monde formidable avec le Maroc. Il devrait s'engager dans les prochaines heures avec l'OM et renforcer un effectif ambitieux, spectaculaire. Mais attention à Monaco et ses deux vice-champions du monde, hein, Fofana et Disasi. Monaco qui doit s'imposer également, sinon bien l'OM prendrait le large au classement. Voilà, belle soirée de foot sans doute que nous allons vivre en direct sur Europe 1, coup d'envoi 21h.
Merci beaucoup Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, et donc ce match sera à vivre tout à l'heure dans Europe 1 Sport. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Pierre de Villeneuve. Effectivement, le match en intégralité avec toutes les données et tous les éléments pour bien comprendre cette rencontre, et c'est vrai que Jean-François Pérez a été exhaustif, mais on peut préciser qu'en effet Marseille a gagné 8 fois d'affilée et que si ce soir l'OM bat Monaco, 9e victoire, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du club.
Ah ouais ?
Marseille n'a jamais gagné 9 fois d'affilée, même à l'époque de 1993 avec Bernard Tapie. Donc ce serait vraiment historique pour Igor Tudor et pour ses joueurs. Et ça voudrait dire aussi, ce sera l'un des thèmes de débat, que Marseille peut peut-être jouer le titre et venir chercher le Paris Saint-Germain. Il y a le fameux classique qui se déroulera fin février également entre Paris et Marseille. Ce sera particulièrement intéressant, donc on en parle ce soir. Et puis on rendra hommage aussi à un joueur que les plus jeunes ne connaissent pas, mais vous avez prononcé son nom par le passé, mon cher Pierre de Villeneuve, il y a quelques années. Claude Papy avec moi, bien sûr. Claude Papy, c'est le plus grand joueur corse du XXe siècle qui nous a quittés il y a 40 ans. Et on lui rendra hommage ce soir parce que c'est une date anniversaire et qu'on aimait beaucoup Claude Papy.
Beau programme. Instagram. Merci Lionel Rossois, tout à l'heure 20h. Merci Victor Pourchet pour le journal de 19h. La météo plus d'éclaircies, enfin j'allais dire, dans notre ciel, Valérie Darmon.
Effectivement, du sud de la Bretagne au Val-de-Loire, la Beauce, bassin parisien, intérieur des Hauts-de-France, Champagne et Ardennes, le ciel devrait être plus ensoleillé et dégagé dès notre matinée cette fois. Les minimales vont donc baisser et les gelées revenir. Attention simplement aux quelques nappes de brouillard du matin. Le long des côtes de la Manche, du nord de la Bretagne aux Hauts-de-France, en passant par la Normandie, le ciel en revanche est nuageux toute la journée, donnant quelques bruines. Pour les régions centre, du Poitou-Charentes au Grand Est, en passant par la Bourgogne, attention aux nappes de brouillard le matin. Et puis le ciel devrait être plus lumineux l'après-midi avec quelques éclaircies. Et dans le sud-ouest, enfin, le ciel est encore assez gris, brumeux en matinée dans les plaines et vallées. Et puis les éclaircies vont revenir. Les maximales oscilleront entre 2 à Rodez et 12 à Marseille. Elle reste sous les normales de saison.
Merci Valérie Darmon, 19h17. Dans un instant, je reçois la pédopsychiatre et co-auteur avec Céline Masson de la Fabrique de l'Enfant Transgenre, Caroline Eliachef. A tout de suite.